Le pain, c'est un petit peu comme voilà, le gros plat de lasagne qu'on va avoir plaisir à couper, comme le chou-fleur rôti qu'on va rôtir entier et qu'on va trancher, ou la côte de bœuf énorme qu'on va faire cuire sur un barbecue et dont on va assurer la découpe à table. Ben, le pain, chaque jour, lui, a la chance d'être dans cette situation-là, c'est-à-dire d'arriver en tant que pièce et d'être rompu. C'est une des dernières caractéristiques du pain, c'est qu'on le rompt à la main, être rompu pour l'ensemble des convives.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Je réfléchis et je ne trouve pas. Existe-t-il un aliment plus fédérateur que le pain ? Le pain est multiple, on le trouve sous tellement de formes. La baguette, la boule campagne, le pain sans gluten. Il s'invite à la table de toutes les cultures, du naan en Inde à l'arepa en Colombie et au Venezuela, en passant par les bagels nés en Pologne et aujourd'hui hyper populaires aux États-Unis. À chaque fois, le pain est cet objet humble, robuste, digne de confiance, toujours là où on l'attend, sans pour autant empiéter sur le goût de ce qui l'accompagne. Un pain pour saucer, un pain pour maintenir d'autres ingrédients ensemble, un pain pour combler un dernier petit creux dans le ventre, un pain à partager. Le pain est également pour moi indissociable des endroits où on le fabrique et où on le vend, les fournils et les boulangeries, comme autant de devantures familières. Là où il y a une place de village, une poste, une pharmacie, un café et une boulangerie, il y a de la vie humaine, du passage, des rencontres. Et c'est là une vision répétitive et rassurante dans la France des petits villages que l'on peut aimer retrouver quand on fait de la randonnée ou lorsqu'on sillonne les routes l'été venu. Dans « Si le pain m'était compté », publié aux éditions de La Découverte en 1987, Benigno Cáceres écrit « Tout au long des siècles, le pain, nourriture essentielle de l'homme, a suscité des émeutes, des révoltes, parfois des révolutions. Si le pain vient à manquer, disette et famine s'abattent sur le peuple. » Bref, le pain est élémentaire dans notre alimentation. Il est populaire et appartient à toutes et tous. C'est un aliment qui a toujours su nourrir l'humanité à partir d'ingrédients simples comme la farine, l'eau et le sel. Pourtant, réussir un pain n'est pas une mince affaire. Et contrairement à la pâtisserie, un art culinaire tout de suite gratifiant de par sa beauté, un bon pain se voit moins rapidement au premier coup d'œil. Alors souvent, on se contente de pains de mauvaise qualité. Rentabilité et industrialisation obligent, le pain est un art souvent malmené. Or, ces dernières années, on a pu observer un fort regain d'intérêt pour le pain de qualité. Au lieu d'en faire le parent pauvre de notre alimentation, de nombreux passionnés de la boulange se sont creusés les méninges pour réactualiser cet art ancestral à l'aune de la valorisation des farines anciennes, du levain naturel et des méthodes artisanales. C'est ce mouvement observable à la pratique amateur de la boulange maison, des boulangeries au levain qui fleurissent partout dans les grandes villes et des livres sur le sujet que l'on réunit sous le vocable de néo-boulangerie. Mais une question se pose alors. Le risque n'est-il pas de se retrouver en France avec une pratique boulangère à deux vitesses, avec d'un côté la boulangerie conventionnelle, populaire, où vont monsieur et madame tout le monde, de l'autre les nouvelles boulangeries aux façades rutilantes et aux pains de qualité posant derrière de belles vitrines et devant lesquelles se bousculent les gens qui ont le capital culturel et le capital économique pour se les offrir? Pour répondre à cette question, je suis allée chez Rémi Cérezola à Marseille. À travers Pimpan, la boulangerie qu'il a ouverte avec son associé Vincent Biron, Rémi réfléchit énormément au double défi qu'il y a à se donner les moyens de faire du pain de qualité, tout en embarquant tout le monde, toute classe sociale confondue, dans cette aventure. Une nuit, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre Pimpan à 4h du matin pour observer de près les façons de travailler des équipes. C'est aussi là que j'ai découvert l'histoire du Respectus, l'un des pains les moins chers de l'étal. Ce pain est né durant le confinement, à un moment où les gens se détournaient des baguettes de pain au profit de pains de garde, tels que les grosses boules campagne. Dans ce contexte particulier, Rémi s'est interrogé sur comment continuer à proposer un pain populaire, simple et accessible. Avant de nous en dire plus sur le sujet, Rémi revient à l'essence du pain et à ce qui l'a amené à se prendre de passion pour cet aliment, lui qui a été prof dans une autre vie.
La fabrication du pain répond vraiment à un cycle de vie, puisque c'est de la fermentation. Donc il y a une naissance, au moment de l'inoculation des bactéries et des levures dans la farine, mélangée avec de l'eau, du sel, un développement de ces bactéries, ce qu'on peut appeler la pousse, la fermentation, et puis il y a un moment où voilà, on a un pic d'activité, il faut savoir déterminer, et puis après il y a un déclin, et puis il y a un moment où on est obligé d'agir vite, sinon on risque de ne pas parvenir à faire un produit. Voilà. Donc il y a vraiment de la vie, ça c'est très clair, et comme un cycle de vie, c'est assez étonnant. Ce qui fait qu'on n'est pas complètement maître de la temporalité. On peut aménager à certains égards la panification, mais on n'est pas vraiment maître de la temporalité. C'est intéressant parce que on doit se soumettre à la fermentation. La fermentation, c'est elle qui commande. Ça peut être, pour certaines personnes, un grand confort de ne pas pouvoir décider à tout moment par elle-même, de façon complètement autonome, de ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire. Parce que c'est... Voilà, c'est dicté. Ça peut être d'un grand confort psychologique, en fait, d'être soumis à une règle qui nous est extérieure.
Le côté quête de sens, le côté partage, j'ai l'impression qu'on met beaucoup de choses derrière le pain, que ce n'est pas un produit banal.
Il s'agit d'un produit qui n'est pas banal, c'est sûr, mais qui est élémentaire, en revanche. Finalement, c'est de la farine, de l'eau et du sel. Ce sont trois ingrédients, alors quand le pain est bien fait, hein, qu'il n'y a pas d'autres ingrédients, d'adjuvants, d'additifs dans tous les sens, hein, mais quand les matières premières sont nobles et qu'on cherche à faire un produit de qualité, ce n'est finalement que ça, de l'eau, de la farine et du sel. Et cette économie de moyens permet une vraie quête de sens, déjà au stade de l'élaboration, parce qu'avec trois éléments, trois ingrédients, il va falloir conjuguer tout un tas de paramètres pour arriver à faire un pain de qualité. Ça se différencie en cela pas mal de la cuisine. Il y a souvent, alors, des exercices de style quand même qui s'y rapprochent, mais il y a souvent une multiplicité d'ingrédients, une possibilité de rattraper les choses. On le sait, le pain ne ment pas. Le pain, ce ne sont que trois ingrédients qu'il va falloir combiner à des paramètres d'hygrométrie, de température, de durée, de toucher, pour arriver à faire un produit. Donc c'est aussi la possibilité, je te le disais tout à l'heure, de se soumettre à une temporalité, mais c'est la possibilité, avec une économie de moyens engagés, en fait, de creuser sur des paramètres très fins, très subtils, en permanence pour obtenir un produit qui soit le meilleur possible. Et ça, c'est déjà une quête de sens pour le boulanger en lui-même, avoir très peu de moyens, mais des moyens très choisis pour arriver à faire un produit un peu exceptionnel, ou en tout cas comme tous les pains devraient l'être, c'est-à-dire de qualité. Le sens, il se fait aussi après dans le fait de fabriquer ce pain-là, dans la visée qui se retrouve sur une table, et de partager ce plaisir. Pour ça, on est bien tombé en tant que boulanger. On a beaucoup de chance, parce que le pain est finalement un des rares apports céréaliers qui puisse, en tout cas dans nos façons de manger occidentaux et un peu méditerranéennes, mais qui puisse se manger froid, donc se transporter, et dont la consommation peut par ailleurs être différée dans le temps, se conserver. Donc ça, la chance, parce que c'est une partie des raisons qui explique l'attrait pour notre produit. Deuxième chose, c'est facilement transportable, je veux dire, en tant que matière. Hein. On n'a pas besoin d'un tupperware, hein. On n'a pas besoin de faire... On a une céréale qui se mange froide, qui se transporte facilement. Troisièmement, on a un goût aussi et une texture qui sont, alors pas neutres, mais quand même un peu, qui se fondent dans le décor et qui sont propices à être accompagnés, ou propices à accompagner, plus exactement. C'est presque une assiette, en fait, le pain. On a une grosse tradition, ou des couverts. Quand on pousse les ingrédients qui sont dans l'assiette, la cuisine, avec le pain, c'est un ustensile. Quand on vient saucer avec un morceau de pain, c'est comme un ustensile aussi, un ustensile comestible. Quand on vient déposer une tranche de fromage sur sur du pain, ben là, c'est comme une assiette comestible. Donc, on a cette chance-là d'avoir une forme, un goût, une composition qui se prête au fait de manger avec voilà, plein d'ingrédients différents, de pouvoir être transporté. C'est tout un tas de chances. On a beaucoup de chance, nous, les boulangers, de travailler ce produit-là. Et puis, sur le partage, les individus à table sont assez partageurs quand ils se retrouvent entre amis. Il y a quand même un gros intérêt pour ça. Et le pain, c'est un petit peu comme voilà, le gros plat de lasagne qu'on va avoir plaisir à couper, comme le chou-fleur rôti, qu'on va rôtir entier et qu'on va trancher, ou la côte de bœuf énorme qu'on va faire cuire sur un barbecue et dont on va assurer la découpe à table. Ben, le pain, chaque jour, lui, a la chance d'être dans cette situation-là, c'est-à-dire d'arriver en tant que pièce et d'être rompu. C'est une des dernières caractéristiques du pain, c'est qu'on le rompt à la main, être rompu pour l'ensemble des convives.
Tu parlais tout à l'heure de la chance que vous avez en tant que boulanger et boulangère de manipuler, de vendre en fait tous les jours un produit comme le pain, qui est finalement un produit populaire dans tous les sens du terme, populaire parce qu'il a une popularité. C'est un peu le plus petit dénominateur commun de beaucoup de tables aussi. Et populaire aussi parce que finalement on peut s'acheter du pain pour pas très cher en général, une pièce ou deux. Et à cette période assez excitante, je pense, pour les boulangers, qui est celle d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de nouvelles boulangeries qui ouvrent, et notamment ce qu'on appelle désormais, parce qu'il faut un mot pour tout, mais la néo-boulangerie, qui est à la fois un peu une mode, mais peut-être aussi une prise de conscience sur la force du levain aussi, et puis et peut-être aussi de nouvelles alternatives, en tout cas une nouvelle proposition de pain qui s'éloigne un peu d'une offre plus conventionnelle. Dans tout ça, comment tu fais avec Pimpan pour à la fois attirer donc, les gens qui sont foodies, comme on dit, qui vont traverser la ville pour venir chercher du super bon pain chez Pimpan, mais aussi rester une boulangerie de quartier et faire de cet endroit un endroit qui attire aussi la petite mamie potentiellement qui vit dans la même rue.
Oui, tu touches exactement à l'essence de Pimpan. Pimpan, qu'on a voulu comme étant une boulangerie de quartier avec Vincent, c'est-à-dire avec une grande force d'implantation. Alors, ça passe par deux axes. Le premier axe, c'est évidemment le pain. On est dans un quartier qui reste un quartier populaire comme nous. Là, on a eu un gros travail sur la gamme avec un équilibre entre certains produits qui sont vendus à des prix très démocratiques et d'autres qui sont plus travaillés avec des matières premières plus coûteuses, qui sont plutôt des produits pour se faire un petit peu plaisir ou pour découvrir de nouveaux horizons panaires plus ponctuellement. La cliente qui est la plus importante pour moi, c'est la mamie qui habite au-dessus de la boulangerie, qui descend tous les matins acheter sa baguette et son croissant, et à qui on va rendre service, garder les clés de son appartement si elle s'en va, ou le cabas si elle va faire des courses. Et ce sont nos clients, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots pour les désigner, à part consommateurs, mais qui ne seraient pas forcément plus heureux. Mais il y a un vrai lien au-delà de ça qui se tisse avec les personnes qui viennent et en tout cas qui veulent bien participer à cette optique-là. On est implanté aussi à travers le pain, mais aussi à travers d'autres activités. C'est un peu le second versant de Pimpan, c'est qu'on est une boulangerie mais de quartier, mais pas qu'une boulangerie. On organise des soirées festives, on est en train de mettre au point des axes de formation, qu'il s'agisse de personnes pour le quartier ou de personnes qui viennent d'un peu plus loin mais qui sont vraiment intéressées par la panification. On travaille beaucoup avec des associations qui ont besoin de pain pour nourrir des personnes vraiment démunies. On a aussi l'envie de créer d'autres événements à caractère festif ou qui touchent à l'éducation, travaillant avec les écoles, les secteurs où on est implanté. Des repas de quartier, peut-être même un festival. Enfin, l'idée, c'est quand même toujours la même. Alors, l'expression est galvaudée, mais c'est de créer du lien, ou en tout cas de participer au fait qu'il ne se désagrège pas, pour une vision un peu plus pessimiste, plus optimiste, donner de l'énergie et susciter aussi de l'énergie des autres. Voilà, dans cette optique d'en créer toujours plus du lien.
Alors oui, tu parlais de recréer ce lien, de créer ce lien, de le nourrir aussi. Je me souviens que tu m'avais parlé aussi de ce pain, en fait. C'est le Respectus, si je ne me trompe pas, qui est en fait un pain que vous avez créé pendant le confinement. Je voudrais qu'on reparle justement du confinement parce que, bon, on est aussi content de moins en moins en parler et de peut-être essayer de parler d'un peu autre chose que le Covid. Mais j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, que c'est un peu derrière nous, c'est intéressant d'y repenser et de l'analyser comme une loupe. Le confinement, c'est un peu le moment où tout le monde était quand même content de pouvoir se faire de temps en temps une attestation pour aller acheter son pain dehors. C'est aussi le moment où beaucoup de gens se sont mis à faire leur levain à la maison, le pain au levain. Donc on se rend compte même qu'à ce moment-là, un peu hors norme, ça a été une expérimentation aussi quelque part sociale pour voir que le pain, lui, était là et comme un bastion de résistance dans cette période un peu de trouble. Et donc, c'est typiquement durant cette période que vous avez donc réfléchi à proposer un pain. Donc, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus.
Oui, on s'est rendu compte que le pain et l'environnement boulanger avaient occupé une grande place dans le réconfort des gens pendant le confinement. Et ça renvoie quand même à ce dont tu parlais tout à l'heure, au caractère un peu élémentaire. Et là, il s'agit quasiment du plus grand dénominateur commun entre tous. Voilà. Donc, ça a été formidable parce qu'on est venu nous demander du levain, on est venu nous demander des conseils pour panifier. Et on a pu initier d'ailleurs des relations avec des gens extrêmement intéressantes, parfois à un niveau technique vraiment vraiment abouti. Pas mal de gens qui sont venus nous revoir en disant « Oh là là, on se rendait pas compte de la difficulté qu'il y avait à faire du pain, on pensait que c'était simple. » Donc là, c'est un autre sens du mot élémentaire, mais on pensait que c'était simple. En réalité, ça ne l'est pas du tout. On a découvert votre métier et les difficultés au devant desquels chaque jour il se trouve, une gamme déjà préétablie que l'on a, voilà, on n'a pas fonctionné comme ça. Chaque pain a vraiment son histoire. Alors le Respectus en a une qui est liée au Covid, et effectivement, quand il s'agit d'ouvrir la boulangerie, on n'a pas su immédiatement si on allait faire des baguettes ou pas, et ce qui nous a plu dans l'idée de faire des baguettes, c'était de les faire d'après une méthode que l'on appelle Respectus Panis et qui consiste à faire fermenter en fait la pâte avec une quantité extrêmement réduite de ferment, mais à des températures bien plus élevées. Alors, outre le caractère moins énergivore, plus écologique du procédé, il y a tout un tas d'intérêts en termes de biodisponibilité des nutriments qu'on trouve dans le pain. Ça met aussi vachement en valeur le goût de la céréale. Ça permet du coup de baisser la quantité, et de façon importante, la quantité de sel. Enfin voilà, ça a plein de vertus. C'est comme ça qu'on allait donc faire les baguettes. Et au moment du premier confinement, il y a eu une espèce de déferlante sur la boulangerie, donc des habitants du quartier qui sont venus pouvoir faire face vraiment à ce qui était quasiment ressenti comme un état dans un futur proche de pénurie. Donc certaines personnes sont arrivées et ont acheté 15-20 kilos de pain, que des grosses pièces qui se conservent plus longtemps. Qui était un pain qui était un peu plus crème, moins typé, qu'on ne faisait pas en grosses pièces.
Tu m'expliquais l'autre fois que tu avais à cœur aussi que Pimpan soit un endroit où différents profils professionnels se croisent et pas uniquement des gens peut-être en reconversion professionnelle qui ont peut-être qui viennent de certaines catégories sociales et qui auraient pu peut-être se payer certaines écoles ou pas. Et tu n'avais pas envie donc que qu'au Fournil, il y ait une homogénéité en fait de profils. Et tu tiens aussi à avoir des gens qui sont passés par des parcours plus classiques, des jeunes boulangers, des apprentis, des gens qui sortent de leur CAP. C'est une démarche militante de faire ça ?
Oh, c'est plus simplement, je pense, le reflet du caractère universel du pain. C'est encore une fois, ça revient à l'histoire du dénominateur commun. Chacun est concerné par le pain. Tout le monde a sa place chez Pimpan. Il y a effectivement une grande tendance aujourd'hui à un renouveau des profils, on va dire, dans la boulangerie, qui est une très bonne chose. puisque ça a permis de renouveler des pratiques, d'enrichir du moins les pratiques déjà existantes. Il ne faut pas oublier quand même que le pain tel qu'il est fait depuis longtemps est celui du fruit d'un travail ouvrier, quand même assez difficile, pénible. Que soit substitué complètement des profils à d'autres, semble ni réaliste, ni respectueux, voilà, justement, de cette histoire du pain. Le pain doit aussi, enfin, est un partage, et l'apprentissage du pain doit l'être aussi. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive à, chez Pimpant, à un partage entre des profils, des horizons, des vécus différents. Je trouve que ça ressemble au pain, ce partage, voilà.
Est-ce qu'il y a aussi donc, l'idée d'artisanat à protéger parce que à une heure finalement où on voit une mécanisation un peu à tout va, la modification des blés, vous avez un fournil ouvert, un micro-moulin aussi où vous réalisez sur place votre propre farine pour la panifier dans la foulée, un pétrissage manuel aussi. Est-ce que vous le faites pour tout? Est-ce que c'est possible ce pétrissage manuel pour vraiment toute la production proposée par Pimpant?
Alors, est-ce que c'est possible? Oui, théoriquement. Est-ce que c'est souhaitable? Non. Parce que le pétrissage manuel, c'est quand même ce qu'il y avait de plus dur dans la boulangerie. Hein. Il était souvent, le rôle de pétrisseur était souvent dévolu au plus jeune arpète de la boulangerie, qu'on dénommait à juste titre le gindre. L'idée de perpétuer un pétrissage à la main, de montrer aussi avec un micro-moulin comment on peut se faire une mouture de céréales et de la panifier dans la foulée, ça a surtout une vertu pédagogique. Ça permet de rôtisser le lien entre le champ dans lequel est cultivée la céréale et tout ce cheminement entre la terre et la table. Voilà. Puis ça suscite aussi l'intérêt de tout le monde, mais en particulier des enfants, qui peuvent se poser des questions quant à qu'est-ce que c'est que l'artisanat, qu'est-ce que c'est que la culture, qui sont des questions cruciales aujourd'hui. Transmission d'un artisanat extrêmement important, et c'est l'un des buts de notre travail, en ayant des apprentis, des stagiaires, etc. Mais aussi transmission, et c'est, je pense que tu sous-entendais, de cet artisanat auprès des personnes qui ne veulent pas devenir elles-mêmes directement artisans, mais dans la vie, ça n'est finalement qu'un partage d'informations et de plaisirs.
Donc tu l'as employé, le mot pédagogique est assez central quand on parle aussi de consommation de pain. Mais je me souviens d'une réflexion en fait qu'on faisait il y a quelques années et que j'avais pu aussi en discuter avec un boulanger à Paris. C'était l'idée qu'on observait de plus en plus une augmentation de gens à la boulangerie qui demandaient du pain pas trop cuit, s'il vous plaît, du pain très blanc. L'explication qui était avancée, c'était que c'était notamment une conséquence de la démocratisation du pain de mie vendu en supermarché et que ça avait un peu habitué le palais à manger des choses molles, à moins faire d'efforts finalement. Et le boulanger avec qui je discutais à Paris me disait pourtant une croûte bien faite, c'est bien aussi, notamment même pour les dents, en fait. C'est bien de croquer dans les choses. Et puis, au-delà de ça, c'est bien aussi de manger du pain fait à partir de farine le moins transformée possible. C'est bien pour l'organisme.
Alors, pour ce qui est des bienfaits de la croûte sur les dents, je passe. Je passe. Je suis incompétent en la matière. C'est peut-être vrai, mais il y a un autre aspect qu'on trouve d'ailleurs dans une expression, hein, manger son pain blanc. Le pain blanc et sa diffusion s'est accompagné d'un type de consommation hein, qui était une consommation bourgeoise d'un produit élaboré à partir de farine de qualité, blanchie et dont on notait justement le son, l'enveloppe du blé, parce qu'on avait les moyens de le faire aussi. Et c'est donc une consommation de classe, une consommation socialement marquée, qui est à l'origine du développement du pain blanc. Peut-être aussi de passer à autre chose quand, à une époque, les farines étaient mélangées, coupées, de mauvaise qualité, et on avait un pain très foncé, très noir, et qui n'était pas forcément excellent en goût. Donc peut-être que ça, c'est aussi un effet de réaction à cela. Aujourd'hui, en tout cas, nous, tel qu'on le vit chez Pimpant, on a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par des colorations de croûte assez poussé, assez abouti, parce que ça développe des arômes, ça développe aussi la conservation du pain, parce que ça protège la mie de l'extérieur et ça empêche l'humidité d'en sortir trop vite. Et puis, il y a quand même un rapport extrêmement charnel, matériel, un pain qui croustille, c'est quand même quelque chose en plus du goût de la simple mâche après de la mie et qui est très plaisant. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de faire varier, non pas en fonction de, non pas les colorations pour chaque type de pain, mais on a des pains qu'on cuit moins que d'autres. Donc, certains pains sont juste dorés. Et d'autres ont une croûte beaucoup plus brune, en fait. Et ça permet à chacun de trouver un petit peu son compte.
Dernière question que je voulais te poser, Rémi, qui est un peu notre question rituelle de cette saison dans Bouffon. Qu'est-ce que manger pour toi ?
Eh bien, manger, c'est une espèce de fait total, hein, en effet, comme tu le disais en introduction. Et pour moi, c'est d'abord partager. C'est se retrouver à un endroit où on mène tous ensemble une même activité en partageant les mêmes choses et à partir desquelles des conversations, des idées, des sentiments vont se développer. Donc c'est d'abord le partage. C'est aussi la culture, parce que c'est quand même un amas de connaissances, un amas de pratiques sociales. On mange très différemment à travers le temps, à travers l'espace, et puis même à un même endroit donné, à travers des espaces sociaux différents, on mange extrêmement différemment. Bourdieu l'a bien prouvé, voilà.
Pour prolonger la réflexion sur le pain, n'hésitez pas à écouter ou réécouter « Mettons la main à la pâte », l'épisode 71 de Bouffon à propos du levain naturel, ou encore « Pain de mie à Jean Double », l'épisode 86 de Bouffon à propos de l'histoire du pain de mie entre sa version japonaise et celui que l'on trouve dans l'industrie agroalimentaire. Merci à Rémi Cerezola de nous avoir donné de son temps pour parler de pain comme liant social. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, Donia Wahada et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.